Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Vincent Berne.
Bonjour Julien.
Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuses, dans lequel je prends plaisir à rencontrer celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. En 2021, il faut que je dise que le podcast 2030 Glorieuses, il est soutenu par la Nef. Je le dis non pas par obligation, mais parce que vraiment, sincèrement, c'est une aide fantastique, puisque cette coopérative bancaire citoyenne soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels, et soutient aussi ce podcast et me permet de faire ce travail, d'aller identifier tous les porteurs de projets extraordinaires que je prends vraiment un grand plaisir à rencontrer. Toi, Vincent, tu es le directeur du programme J'accueille chez Singa France et je t'interview à distance pour parler de votre rôle d'accueillant et des métiers qui en découlent. Plus largement, nous discuterons de solidarité, d'interculturalité et de la richesse qui peut irriguer notre société dans les prochaines décennies si nous changeons notre regard sur la migration. Pour commencer cet échange, Vincent, je te pose la même question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu réponds aux gens que tu rencontres pour la première fois et qui te posent cette question fatidique ? Et toi, tu fais quoi dans la vie ?
Généralement, je vais commencer par les regarder et sourire. Et ensuite, je vais leur expliquer que mon métier, c'est d'accompagner en fait, les citoyens qui ouvrent leurs portes à des personnes réfugiées qui souhaitent les accueillir chez elles.
Ouais, tu le dis, hein, tu accompagnes les citoyens parce que tu travailles donc chez Singa France qui a une expertise toute particulière hein, sur la question des réfugiés depuis de nombreuses années.
Exactement, le but de Singa, c'est vraiment de changer un petit peu le regard qu'on peut porter sur la migration, de faire valoir la migration comme une source de richesse au sein des sociétés d'accueil, une source de richesse, mais en fait tout simplement parce que c'est une source d'innovation, de créativité, de vivre ensemble, de progrès. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre les cartes en main des personnes qui arrivent dans un pays, tout simplement, pour qu'elles puissent s'épanouir et exprimer leurs talents.
Et donc, Singa a développé pas mal d'activités. Je me rappelle, moi, j'avais eu Roux Chassavard, qui était venu dans le podcast « Ça commence par moi » ou même « Ça commence par nous ». Même. C'était vraiment la première édition de l'émission que j'avais à l'époque chez Rage, qui nous parlait à l'époque de tous les super projets que vous aviez chez Singa. Et depuis, c'est assez récent, vous avez développé J'accueille.
Exactement. En fait, Roux, c'est le président de Singa. Le but de Singa, c'est vraiment d'accompagner des projets entrepreneuriaux, d'accompagner des projets citoyens autour de la migration ou sur toute autre thématique, si c'est des personnes nouvellement arrivées qui les portent. Et parmi les projets qui ont été accompagnés avec la méthodologie Singa, on a développé nous-mêmes le programme J'accueille, du coup, qui est un projet entrepreneurial en soi, qui a été créé au sein de l'association Singa parce qu'on en a eu l'idée. Et du coup, ce programme, c'est vraiment de pouvoir rendre possible et facile l'accueil citoyen et sur tous les territoires.
Alors, on va revenir plus longuement hein, sur le programme J'accueille. J'ai vraiment envie que tu nous racontes les expériences marquantes de ces derniers mois, que tu nous racontes effectivement du coup la mission et les métiers qui en découlent. C'est vraiment passionnant, j'en suis sûr. Mais avant ça, Vincent, moi, j'étais très curieux de savoir comment on en venait à travailler sur la question des migrants et qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint Singa France. Quel est ton parcours ?
Alors moi, comme toute personne, j'ai un parcours qui est très spécifique à moi-même, évidemment. J'ai fait des études assez généralistes parce que j'avais la volonté, on va dire, de mieux comprendre les comportements humains, l'évolution des sociétés. Du coup, je me suis tout naturellement orienté vers une licence de sociologie à l'université. Licence de sociologie qui m'a amené à voyager un petit peu et qui m'a orienté vers un master de sciences politiques. Dès que je suis rentré en master, en fait, j'ai su que je voulais travailler pas forcément dans le milieu associatif, mais travailler dans un milieu qui me permet de faire ma part et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes qui m'entourent, et en tout cas d'avoir un métier qui me permette de lutter contre les injustices. C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de m'engager, j'ai toujours eu envie d'être utile, de faire la différence. Je pense que c'est rattaché à certaines étapes de ma vie ou à certains traits de ma personnalité. Et après mes études, en fait, je suis parti en Argentine. J'étais déjà parti en Espagne au cours de mes études. Et en Argentine, j'ai commencé à travailler dans une fondation éducative. Du coup, on intervenait dans les écoles tout simplement pour mettre les cartes en main des jeunes pour qu'ils puissent définir ce qu'ils avaient envie de faire dans leur vie et qu'ils puissent s'orienter vers des études. Tout simplement leur dire, on leur disait de ne pas arrêter l'école, parce que s'ils arrêtaient l'école, ils auraient moins la possibilité de choisir un métier qui pourrait les passionner. On faisait ce genre d'intervention en partenariat avec des entreprises et bien sûr les écoles, les collèges, les lycées de la ville. Et ensuite, à cette expérience, je suis rentré en France et là, je me suis impliqué dans une plateforme de crowdfunding, toujours dans le milieu associatif, où on soutenait des projets liés à l'autonomisation, à l'émancipation des femmes un petit peu partout dans le monde, dans une trentaine de pays sur tous les continents. Du coup, on avait des projets divers et variés qui pouvaient être liés à l'éducation, à l'entrepreneuriat, à l'accès à la santé, l'accès aux nouvelles technologies. Et deux projets liés à l'intégration des femmes et enfants réfugiés. Un projet au Liban sur l'inclusion, l'intégration des enfants réfugiés syriens au Liban. Un projet en Ouganda sur l'accès à l'entrepreneuriat des femmes venant du Soudan du Sud et réfugiées en Ouganda. Et très naturellement, en 2015, c'est ce qui a fait le lien avec mon arrivée à Singa, en écho avec la vague médiatique qu'il y avait pu avoir à cette époque-là sur la question de l'accueil, la question de l'asile des personnes qui arrivaient de Syrie. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé à titre personnel à aller manifester Place de la République à Paris, considérant que, en fait, on devait ouvrir nos portes, on devait ouvrir nos frontières à ces personnes qui fuyaient leur pays tout simplement pour sauver leur vie. Et du coup, c'est tout naturellement que j'ai rejoint Singa une année après, tout simplement en voyant une offre de poste qui me convenait, à laquelle j'ai postulé, qui était celle de responsable du réseau d'accueil sur l'île de France à cette époque.
On t'entend avec ton parcours et on a l'impression que effectivement 2016, on a cette vague médiatique dont tu as parlé avec les réfugiés syriens et on se dit, tiens, tout d'un coup, des gens arrivent en France alors qu'on a tendance à oublier que la France, c'est une terre d'asile, c'est une terre d'accueil depuis des siècles, hein, et sans remonter aussi loin, rien que pour ma famille, puisque des Italiens, des Espagnols sont venus en France après la guerre civile pour trouver dans ce pays, dans cet hexagone, une vie meilleure, un travail plus stable et une situation de paix pour leurs enfants. Et là, on est en 2021 et j'ai l'impression qu'on a un peu effacé cette partie de notre histoire.
C'est vrai que la question des migrations, c'est une question qui se pose que de manière ponctuelle dans les débats publics, lorsqu'il y a des gros événements internationaux qui se produisent, lorsqu'il y a des élections qui se profilent également. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de l'histoire de l'humanité, hein, de bouger, migrer. Pour survivre ou tout simplement parce qu'on en a envie. C'est assez intéressant de pouvoir voir la différence qu'on peut avoir dans les discours lorsqu'on parle de personnes qui s'expatrient dans d'autres pays, des personnes qui voyagent et des personnes qui quittent leur pays parce que en fait elles sont dans l'obligation de le quitter. Le discours est complètement différent. Alors qu'au final, on parle de simple migration. Les migrations, c'est quelque chose qui a toujours existé, c'est quelque chose qui existera toujours. Déjà, les migrations en tant que telles parce que les humains bougent, mais aussi les migrations forcées parce que, notamment avec le contexte écologique, au cours des décennies qui arrivent, je pense, et il y a déjà plusieurs études qui le confirment, qu'il va y avoir de gros mouvements de population. Du coup, il faut pas l'oublier, il faut aussi se préparer à accueillir le mieux possible au sein des différents pays d'accueil, tout simplement pour concevoir, comme je pouvais le dire tout à l'heure, hein, la migration comme une richesse et pas comme quelque chose auquel on doit faire face.
Ouais, tu l'as dit, hein, les experts des organisations internationales nous prédisent des flux migratoires de plus en plus importants qui atteignent parfois des centaines de millions de réfugiés, notamment et principalement dus aux questions climatiques. Et en fait, à tous ces pendants, hein, on parle de famine, on parle de vagues de chaleur, on parle d'inondations, de chaos climatique de plus en plus fort et régulier et récurrent. Et si on était dans un pays qui se permettait d'anticiper, de voir loin, on ferait le travail que Singa fait depuis des années maintenant.
L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les sociétés d'accueil au mieux, à la fois sur l'accueil, sur l'action individuelle, comment chaque personne souhaite s'engager, souhaite prendre part à cette question-là, et derrière, de pouvoir, lorsqu'on parle de dizaines de milliers de personnes qui s'engagent, de centaines de milliers de personnes qui s'engagent, de pouvoir façonner des politiques qui encadrent justement cet engagement, qui vient faciliter l'intégration des personnes qui sont accueillies, qui vient faciliter leur inclusion par des mises en lien avec d'autres personnes qui vont les aider à développer leur projet professionnel, à reprendre des études, à développer leur activité entrepreneuriale, à vraiment se faire une place dans leur nouveau pays d'accueil. Et oui, c'est ce à quoi on travaille. Notamment, on a pas mal d'activités, de création de liens. En fait, notre but, c'est aussi de mettre les gens en relation en fonction de ce qu'ils aiment faire dans leur quotidien. Si on a deux personnes qui aiment le théâtre, la musique, le cinéma, la randonnée, on va les mettre en contact parce que c'est, en fait, tous les clivages sont surmontés lorsqu'on parle de ce qu'on aime faire et de ce qu'on aime partager.
Et si je te donne la parole aujourd'hui tout particulièrement, Vincent, c'est parce que, du coup, toi, tu es le directeur de ce programme, le programme J'accueille, qui, lui, crée un lien avec des familles en France qui vont être hôtes. Alors, je suis curieux du vocabulaire que vous utilisez, donc j'ose pas trop m'aventurer, mais qui est accueillant, qui est hôte, je sais pas comment vous le dites, de personnes migrantes, et pendant quelques semaines, quelques mois. Je veux aussi là que tu m'en dises plus. Et après, j'aimerais bien t'entendre justement sur cette fonction d'accueil, sur exactement ce que ça veut dire. Est-ce qu'on doit être accompagné pour jouer ce rôle? Est-ce qu'il y a de plus en plus de familles? Mais je te poserai les questions après.
Ça marche. Alors nous, du coup, J'accueille, c'est un dispositif d'accueil de personnes réfugiées chez les particuliers. Notre but, c'est vraiment d'accompagner les citoyens qui souhaitent ouvrir leurs portes pendant quelques mois à une personne qui est réfugiée, de pouvoir les accompagner tout simplement pour que ça se passe bien, d'une part, parce qu'on est conforté lorsqu'on est accompagné par une association, mais aussi là pour les accompagner en mettant à disposition tout un tas d'outils et de services à leur disposition. Quand je dis à leur disposition, et du coup je vais répondre à ta question, nous on parle d'accueillants et d'accueillis, et du coup on met ces outils à la disposition de nos accueillants et de nos accueillis. Quand je parle d'outils et de services, tout simplement, ça va être des choses très concrètes qui vont nous permettre d'accompagner les cohabitations et définir le cadre de chaque cohabitation, une convention de cohabitation qui récapitule un petit peu les engagements de chacun, l'accueillant, l'accueilli, l'association qui accompagne. À côté, on va avoir un autre outil qui est une charte de cohabitation qui est là, vise à faciliter la communication entre accueillants et accueillis dans les premiers jours, au moment où on se connaît pas tellement, et du coup on va commencer à s'arranger pour dire bon bah voilà, tu peux mettre ta nourriture sur telle étagère du frigo, dans tel placard, voilà comment on s'arrange pour le ménage, voilà comment on s'arrange pour sortir les poubelles, est-ce qu'on fait le recyclage dans la maison, dans l'immeuble, comment ça se passe, est-ce que tu peux inviter des amis à la maison, si oui jusqu'à quelle heure. Vraiment on est là pour faciliter avec ces outils là et à côté notre accompagnement c'est aussi de faire en sorte, au-delà de l'accompagnement que J'accueille fait, de prendre des nouvelles de manière récurrente une fois que la cohabitation a commencé, ça va être de faire des partenariats avec des spécialistes de l'accompagnement social qui vont accompagner toutes les personnes qui sont accueillies sur leur démarche d'accès aux droits. D'une part, ça va être l'inscription à la couverture maladie universelle, Pôle emploi, l'inscription à la caisse allocation familiale, mais ça va être aussi de définir avec le travailleur social le projet professionnel, est-ce qu'on souhaite reprendre des études, est-ce qu'on souhaite suivre une formation professionnelle, trouver un travail, passer son permis de conduire pour devenir chauffeur. Et le dernier point, le travailleur social, il va beaucoup être présent aussi sur les recherches d'une solution de logement, parce que nous, ce qu'on propose avec J'accueille, c'est vraiment un programme d'accueil temporaire. L'idée, c'est que les personnes qui accueillent ouvrent leurs portes de manière temporaire et ou offrent quelques mois qui vont être des mois tremplin pour la personne accueillie, justement pour qu'elle développe tous ses aspects administratifs en plus de ses projets personnels et professionnels. Et qu'elle puisse trouver une solution de logement.
Oui, c'est vraiment ça le rôle clé que je voulais discuter, détailler avec toi. Et donc là, mon terme d'accueillant n'était pas le bon, parce qu'en fait, les accueillants, c'est donc les personnes qui accueillent directement chez elles. Les accueillis, forcément, ce sont les réfugiés qui sont accueillis. Mais vous, chez Singa, et donc avec ce programme J'accueille, vous avez des personnes qui sont dédiées à cerner les envies d'accueil, aller discuter avec les familles, comprendre l'intention qu'il y a derrière, et puis ensuite les présenter face à des personnes qui ont besoin d'un toit. Et ensuite, comme tu le dis, grâce à tout un processus, des documents, du temps forcément passé, et puis de l'expertise, créer cette relation, parce qu'on imagine assez bien parfois cette émotion qui donne à des familles l'envie d'ouvrir leurs portes pour ces situations qui sont dramatiques. Et en même temps, dans le quotidien, tous les petits couacs qui peuvent venir, voilà, comme des grains de sable, un peu compliquer cette relation. Et donc vous avez vraiment des personnes qui sont dédiées à mettre de l'huile dans les rouages, à faire les présentations, à suivre la conversation, l'échange sur le temps long.
Exactement. En fait, dès qu'une personne manifeste l'envie d'en savoir plus sur notre programme ou souhaite accueillir selon le degré de maturité de sa réflexion, nous, elle peut s'inscrire sur notre site internet. Du coup, c'est un site qui s'appelle j'accueille.fr. À partir de ce moment-là, chaque personne peut s'inscrire à une réunion d'information. Du coup, nous, on va convier aux réunions d'information qui sont soit en présentiel, soit en visio. On fait un petit peu les deux en fonction de la situation sanitaire également. Et le but de ces réunions d'information, c'est vraiment déjà, dans un premier temps, de présenter le programme, tous les outils, tous les services qu'on met en place, mais également de pouvoir les accompagner pour qu'ils mûrissent leur projet d'accueil, essayer d'identifier à quoi leur projet d'accueil fait écho, quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs attentes, quels sont les enjeux qu'il pourrait y avoir dans chacune des cohabitations, et derrière on va essayer d'en savoir plus sur eux. Où est-ce qu'ils habitent? Est-ce qu'ils sont proches des réseaux de transport en commun? Si oui, de quelle ligne de métro ou de quelle ligne de bus, parce qu'on va essayer de faire des mises en relation qui sont adaptées pour les personnes accueillies en fonction de leur projet. On va essayer de faire en sorte que les personnes soient à une demi-heure, maximum trois quarts d'heure en bus, en transport, de leur lieu de travail, de leur lieu d'études, de leur lieu de cours de français, pour que justement l'accueil puisse faciliter aussi le développement de leur projet. Et suite à ces réunions d'information, il y a beaucoup de questions qui sont posées et beaucoup de réponses qui sont apportées. On va être en contact régulier pour mettre les potentiels accueillants en lien avec des personnes qui ont déjà accueilli, pour qu'elles puissent se poser des questions très spécifiques sur mais nous on a des enfants, comment ça se passe un accueil avec des enfants, est-ce que les enfants dans d'autres accueils ont bien adhéré à la démarche, comment ça se passe si lorsqu'on a deux enfants et qu'en fait on veut laisser une chambre de disponible en mettant les deux enfants dans la même chambre pour avoir une chambre de disponible qui bénéficiera à la personne qui va être accueillie, comment ça se passe concrètement au bout de deux semaines, au bout d'un mois, au bout de deux mois. Donc voilà, nous on est là pour accompagner sur toutes ces étapes-là. En parallèle de l'accompagnement des futurs accueillants, on travaille aussi sur la rencontre avec les futures personnes accueillies, c'est-à-dire que toute personne qui souhaite être accueillie dans le dispositif, soit elles vont venir directement à notre rencontre, soit on les connaît déjà parce qu'elles font partie des autres activités de notre association. Et dans ces cas-là, nous, on va les recevoir en entretien pour en savoir plus sur pourquoi ils souhaitent vivre en famille, qu'est-ce qu'ils aimeraient partager. Et au-delà de ça aussi, en savoir un peu plus sur leurs impératifs, comme je le disais tout à l'heure, leurs impératifs de travail. Par exemple, si on a une personne qui travaille très tôt, à 5h, 6h du matin, on va essayer de trouver une personne qui habite pas trop loin de son lieu de travail, mais en plus, une personne qui partage ses centres d'intérêt ou pourquoi pas un domaine d'activité professionnelle, pour tout simplement briser la glace d'une part et ensuite faire en sorte que la cohabitation se passe bien pendant les quelques mois de l'accueil.
Et du coup, c'est quoi cet intitulé de poste que vous avez chez Singa, alors, pour assurer cette mission? C'est facilitateur de cohabitation? Je ne sais pas, vous avez un terme particulier?
Ça pourrait être des facilitateurs de cohabitation. Nous, on les appelle des animateurs, animatrices de communauté, parce qu'en fait, c'est vraiment des personnes qui vont animer la communauté d'accueillants, d'accueillis, sur un territoire. Alors le programme aujourd'hui, on le met en place dans 4 villes. On est en train de travailler avec l'État pour arriver dans 5 autres villes d'ici le début de 2022. Les 4 villes dans lesquelles on est présent aujourd'hui, c'est Paris et l'Île-de-France en général, Lyon, Montpellier et Toulouse. Et du coup, dans chacune de ces villes, on a un animateur ou une animatrice qui rencontre les potentiels accueillants, rencontre les potenciels accueillis, les accompagne pour mûrir leur réflexion quant à sauter le pas. Et ensuite, pour faire des mises en relation qui sont adaptées et qui les accompagnent tout au long de leur cohabitation.
Dernière question, Vincent. Est-ce que la France, malgré l'image qu'on en donne, c'est une terre d'accueil? Est-ce que vous sentez de l'engouement et vous avez de plus en plus de familles qui veulent se joindre au programme J'accueille?
Alors, on sent de l'engouement depuis 2015. Le programme a été lancé en 2015. Et du coup, depuis le lancement du programme, nous, on a plus de 15 000 personnes, foyers français qui se sont inscrits sur nos bases de données. 15 000 foyers français qui souhaitent ouvrir leurs portes à une personne réfugiée pendant quelques semaines ou pendant quelques mois. Aujourd'hui, on est présent dans 4 villes, mais l'idée, c'est de pouvoir arriver dans de nouvelles villes assez rapidement, justement, pour faire en sorte que plus de citoyens encore puissent accueillir. Et bien sûr, à côté de notre association, il y a beaucoup d'autres associations qui existent dans de nombreuses villes, mais aussi, j'ai pas envie de seulement parler de villes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'accueil qui se réalise en zone rurale et des associations qui sont spécialisées dans l'accueil en zone rurale, justement, sur l'accompagnement. Du coup, il y a vraiment une France de l'accueil, mais qui est silencieuse et qu'il faut mettre en lumière, parce que c'est aussi des histoires d'accueil, c'est aussi beaucoup de belles histoires. Sauf que lorsqu'une personne accueille, lorsqu'un foyer accueille une famille, souvent elles vont le faire pour des démarches qui sont très personnelles et elles vont pas forcément avoir envie d'en parler. Donc bien sûr, nous on respecte ça, mais l'idée c'est qu'on puisse le mettre le plus en lumière aussi, les personnes qui accueillent, pour faire savoir que c'est possible.
Eh bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et j'ai hâte qu'on se projette en 2030 glorieuse vraiment dans cette France qui accueille, avec tout un tas d'histoires extraordinaires dont on va parler un petit peu plus en détail dans quelques minutes. Avant qu'on fasse ce voyage vers les utopies réalistes, toi Vincent, tu es venu avec une fenêtre que tu as ouvert dans la littérature et que tu voulais nous partager, puisque ce texte donne à voir, selon toi, des valeurs qui seraient nécessaires de développer, de mettre au cœur de nos modes de vie en 2030 glorieuse.
Exactement. Alors le texte que j'ai envie de lire, c'est un texte d'un chercheur, François Gemen, qui est spécialiste du changement climatique et des flux migratoires, qui exprime sa vision sur notre perception, la perception des sociétés d'accueil sur la migration et l'accueil des nouveaux arrivants. Et du coup, un texte dont je partage la vision et que je voulais vous lire. Je pense que je m'y suis aussi reconnu parce que je suis gaucher et du coup, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. En France, il y a 13% de gauchers environ. J'en fais partie. Nous sommes une minorité, l'écrasante majorité des gens écrivent de la main droite. Les gauchers ont, paraît-il, un cerveau qui fonctionne un peu différemment. J'ai tendance à confondre la gauche et la droite, par exemple. Il paraît que c'est un trait caractéristique des gauchers. Les gauchers représentent aussi un coût additionnel pour la société. Ils sont responsables de plus d'accidents domestiques que les autres, et aussi d'accidents de voiture, apparemment. Ils ont parfois du mal à s'adapter à une série d'instruments et d'ustensiles qui ne prennent pas en compte leurs spécificités, les ciseaux ou les poêlons de cuisine, sans même parler des voitures. Il existe même dans certaines villes des magasins communautaires où l'on vend exclusivement des articles destinés aux gauchers. Jamais pourtant, je n'ai été identifié comme gaucher dans la société. La plupart des gens ignorent que j'écris de la main gauche. D'ailleurs, j'ai écrit ces lignes sur un clavier d'ordinateur, ce qui rend ma différence invisible. Il semblerait ridicule de faire des gauchers un groupe social particulier, d'imaginer qu'ils ont une identité spécifique, problèmes d'intégration ou des revendications communautaires. Il semblerait ridicule d'imaginer que ma caractéristique de gaucher soit consubstantielle de mon identité. Pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, pourtant c'est différent. Ils sont infiniment moins nombreux que les gauchers, mais nous imaginons volontiers qu'ils forment un groupe homogène. D'ailleurs, on ne parle jamais d'eux qu'au pluriel. On oublie trop souvent que chaque réfugié ou demandeur d'asile porte en elle une histoire individuelle. Que le terme de réfugié ne désigne pas seulement leur statut juridique, mais surtout le regard que nous portons sur eux. Et certainement pas la manière dont ils se définissent eux-mêmes. Dans le monde, il y a environ 26 millions de réfugiés et 4 millions de demandeurs d'asile, dont 85% sont accueillis dans des pays en développement ou émergents. Seuls 6% sont accueillis en Europe. C'est une très faible part de la population mondiale, mais cela suffit pour que nous projetions sur eux nos peurs, nos angoisses et nos fantasmes. Derrière ces agrégats, il y a autant d'histoires individuelles. Chacun, à un moment donné de sa vie, a décidé de quitter son pays coûte que coûte pour chercher ailleurs un avenir meilleur, ou simplement la sécurité. Nous aurions pu, nous aussi, nous trouver dans leur situation, si nous étions nés de l'autre côté de la Méditerranée, et si nous avions été confrontés aux mêmes circonstances. Mais pourtant, nous voyons généralement réfugiés et demandeurs d'asile comme s'ils étaient différents de nous. Les frontières, qui sont devenues le seul horizon de nos politiques migratoires, servent aussi à déterminer symboliquement la ligne de démarcation entre nous et eux. Et parler d'eux comme réfugiés ou comme demandeurs d'asile permet aussi de souligner qu'ils ne sont pas comme nous. Occasionner la rencontre permet précisément de dépasser cette ligne de démarcation. Dans une démarche d'accueil, chaque rencontre quotidienne avec celles et ceux que nous voyons si souvent comme différents de nous-mêmes permet de réaliser concrètement que ceux qui sont accueillis sont semblables à ceux qui accueillent, mais se trouvent simplement dans une situation différente. Chaque rencontre singulière permet de réaliser que ceux qui sont sans cesse désignés au pluriel dans le débat public, comme s'ils formaient un groupe distinct du nôtre, étaient en fait une partie de nous-mêmes. C'est une démarche qui est éminemment politique, car c'est précisément en désignant les réfugiés et demandeurs d'asile au pluriel dans des grands agrégats que l'on peut rendre acceptables des politiques qui trop souvent nient leur humanité. Dès l'instant où l'on rencontre les individualités qui sont occultées par les chiffres, il devient inacceptable de poursuivre encore des politiques d'asile et d'immigration qui ont souvent érigé le rejet en principe cardinal. Des politiques qui créent autant de morts aux frontières, des politiques qui refusent de fournir un accueil décent au motif absurde que cela risquerait de créer un appel d'air. Des politiques qui déchirent des tentes et détruisent des abris. Des politiques qui humilient, menacent et discriminent. Des politiques managériales déshumanisantes où les gens sont réduits à des agrégats de chiffres. Je crois profondément que ce sont des liens singuliers qui permettront de transformer ce narratif, et donc de penser des politiques d'asile et d'immigration qui ne se réduisent pas à compter des chiffres en œuvrant chaque année à essayer de les faire baisser. Ce sont ces liens singuliers qui permettront de faire en sorte que derrière chaque réfugié, chaque demandeur d'asile, il y a aussi et surtout des forts en maths, des gens qui aiment bien boire des coups, des électeurs de droite, des conducteurs du dimanche, des fans de Miley Cyrus, des dingues de football et des gens qui ne comprennent pas la règle du hors-jeu, et 13% de gauchers environ.
Merci Vincent pour cette lecture. Je trouve que la comparaison avec les gauchers est très bien trouvée. Je suis de près le travail de François Gemène qui est toujours pertinent et je ne lui connaissais pas cette lecture-là. Donc je te remercie. Le temps que tu nous fasses justement cette lecture et que tu nous proposes à la découverte ce texte de François Gemène, on vient de voyager, ça y est, on est arrivé en 2030 Glorious, tu t'en es pas rendu compte. C'est le voyage le plus extraordinaire que tu vas jamais vivre et en même temps le plus écologique, c'est assez fantastique. Puisque en 2030 glorieuse, on peut laisser libre cours à notre imagination dans un monde où on aurait réussi à remettre le vivant au cœur de nos vies, au cœur de nos modes de vie, et donc une reconnexion aux autres, à nous-mêmes et à tout ce qui fait la complexité et la beauté du système Terre. On va parler au présent pour raconter tout ce qu'on voit dans ces 2030 glorieuses qui n'appartiennent qu'à nous, le temps d'une conversation, et on va donner le plus de détails possible pour que les personnes qui nous écoutent aient qu'une envie, celle de nous rejoindre et de contribuer dès 2021, je ne sais pas si tu te rappelles, 2021, ça fait loin et en même temps, ce n'était pas si lointain que ça. Dès 2021, donc, à l'émergence de ces 2030 glorieuses qu'on va dessiner ensemble et qu'on va construire ensemble. La première question que je te pose, Vincent, c'est toi, là, tu regardes à travers la fenêtre, et qu'est-ce que tu vois en 2030 glorieuses ?
Bah, c'est assez intéressant quand même, parce que ce que je vois beaucoup, c'est de la solidarité et de la fraternité. Et en fait, je me rappelle quand on était en 2021, on avait beaucoup de peur des gens qu'on connaissait pas, alors qu'on a quand même beaucoup tendance à aller vers l'autre. aujourd'hui.
Donc tu dis qu'on a pris le temps, réappris à aller vers l'autre, à oser, je ne sais pas si c'était affronter de la timidité ou réactiver cette compréhension que l'autre est une richesse, mais qu'en tout cas, ces connexions qu'on a recréées, elles nous permettent d'avoir moins peur.
Je pense qu'on a beaucoup plus tendance, effectivement, à voir ce que les autres peuvent nous apporter. Et plutôt que de voir comment elle pourrait nous ralentir ou ce qu'elle pourrait nous prendre, l'idée c'est, en 2021, on pouvait considérer que l'autre, laisser entrer l'autre dans nos vies, allait nous retirer quelque chose, alors qu'en fait, on a bien compris depuis 9 ans que en fait, chaque rencontre nous apportait quelque chose, non seulement individuellement, mais aussi de manière globale.
Je te le disais tout à l'heure, hein, on a remis le vivant au cœur de nos vies et donc justement, on a recommencé à s'inspirer de ce vivant. Et quand on regarde l'état sauvage du vivant, on le voit fouillis, complexe, différent, entremêlé. Et c'est cette complexité, cette nécessité de la différence qui fait que les systèmes sont équilibrés et pérennes. Et c'est ce qu'on a réussi à remettre dans notre société.
Non seulement c'est ce qu'on a réussi à mettre dans notre société, mais c'est intéressant de voir à quel point j'ai l'impression dans toutes les rencontres que je peux faire aujourd'hui qu'il n'y a pas une personne qui ne connaît pas elle-même une personne qui a accueilli quelqu'un chez lui. Et il y a 9 ans, ça paraissait encore assez improbable. Aujourd'hui, et peu importe le type de personne qui est accueillie, ça peut être aussi bien des personnes réfugiées, des personnes qui étaient sans domicile, des personnes qui avaient été exclues de chez elles, mettons, pour parce qu'elles étaient parties à cause de leur orientation sexuelle ou des personnes qui avaient fui chez elles parce qu'elles étaient victimes de violences. On voit qu'il y a cette recréation du lien qui permet d'être un rempart contre une certaine misère qu'il pouvait y avoir il y a encore quelques années, qu'on ne trouve plus aujourd'hui.
Ouais, souvent une misère qui était liée à une indifférence, effectivement, qui était alimentée par ce manque de connaissances et par ce dont parlait très bien François Gémen à l'époque, hein, cette utilisation du pluriel, cette massification qui crée de la distance. Il y a dans la première partie de la conversation qu'on avait, Vincent, tu nous parlais de toutes les richesses qu'il y a à accueillir des réfugiés. Et est-ce que tu peux nous raconter comment en 2030 glorieuse, ces richesses, elles se sont largement répandues et à quel point elles ont irrigué notre territoire, notre pays ?
C'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, l'accueil est disponible partout, encadré partout, que ce soit par des associations, par des mairies qui se sont emparées du sujet au cours des dernières années. L'idée, c'est vraiment, la richesse de la cohabitation, ça s'est vraiment retrouvé dans l'impact de ce genre d'action. C'est-à-dire quand on parle d'impact, il y a des gens qui se sont rencontrés via l'accueil, qui n'auraient certainement pu se rencontrer d'aucune autre manière et qui aujourd'hui sont devenus des amis, qui aujourd'hui ont monté des associations, ont monté des entreprises ou qui se sont tout simplement aidés dans leur cheminement personnel et professionnel. Maintenant, c'est une richesse qu'on peut trouver à peu près à tous les coins de rue, qu'on n'avait pas forcément l'accueil aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est devenu une norme, alors qu'en 2021, c'était encore une exception.
J'ai en tête, et c'est peut-être de manière un peu plus, je ne sais pas comment le dire, ce n'est pas tant d'être calculateur que de penser à ça, mais si même on voulait là tendre les perches, si on avait voulu tendre les perches tout de suite à nos gouvernants en 2021, on aurait pu aussi utiliser critères économiques, de critères d'âge aussi, parce qu'en fait, la France, elle a tout intérêt à accueillir des réfugiés, parce qu'eux, ils sont générateurs de croissance économique, parce que la France, elle vieillit de plus en plus, et donc d'avoir des forces vives, des jeunes qui vont pouvoir aller travailler pour ensuite payer les retraites des plus vieux, c'est aussi, hyper bénéfique, et excuse-moi cette vision très arithmétique, mais il y a aussi cet intérêt-là.
Exactement, on peut le concevoir. Il y a de nombreuses études qui montraient déjà en 2021 à l'époque, et il y en a eu de nombreuses depuis, qui montraient que même l'accueil de personnes qui étaient en demande d'asile, alors qu'en 2021, les droits lorsque les personnes étaient en demande d'asile étaient assez limités, mais que l'accueil des personnes en demande d'asile enrichissait la société d'accueil aussi économiquement et pas seulement en matière de savoir-faire, en matière d'expérience de vie ou en matière de richesse culturelle, mais aussi de manière économique. Et ça, c'est quelque chose qui explose. Et il y a d'autres études qui l'ont montré depuis sur les personnes réfugiées. Et le fait de bien accueillir les personnes réfugiées, c'est en fait en accueillant bien, en étant préparé sur tous les territoires à pouvoir accueillir dans de bonnes conditions, faire en sorte que l'accueil soit digne pour toutes les personnes qui arrivent, qui fait que les personnes vont être proactives aussi dans leur parcours une fois qu'elles sont arrivées, qu'elles vont avoir envie de rencontrer des gens, et en plus en face on a des citoyens qui souhaitent les rencontrer, du coup c'est génial, mais du coup on va avoir des personnes qui vont être rapidement très autonomes, et il faut pas oublier en plus que pour beaucoup c'est des personnes qui ont vécu des parcours de migration qui ont été difficiles, des personnes qui se sont débrouillées sur ce parcours de migration, et du coup c'est des personnes très débrouillardes et très volontaires qui souhaitent participer à la vie du pays.
Et puis c'était déjà le cas avec mes grands-parents il y a 60 ans en arrière, qui sont venus faire des métiers que les Français ne voulaient plus forcément faire. Mais là, en 2030 glorieuse, on se rend compte aussi qu'une partie des réfugiés qui avaient des compétences très spécifiques, qui pourquoi pas avaient aussi des diplômes très recherchés, a repris tout un tas de métiers que les Français ne voulaient plus faire pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas détailler ici. Mais je sais que par exemple, aujourd'hui, de plus en plus de médecins dans les petits villages sont des médecins qui ne sont pas d'origine française.
C'est exactement ce qu'on peut trouver aujourd'hui, alors qu'il y a 9 ans, on était sur des cas, enfin c'était plus compliqué d'en arriver là parce que l'émigration entraînait à l'époque pas mal d'évaluation professionnelle, d'évaluation sociale, la question de reconnaissance des expériences, des expertises, des diplômes qui a été menée au cours des dernières années, c'est sûr quelque chose qui était très utile aussi pour apporter de la main d'œuvre comme tu peux le mentionner, et ça sur des domaines vraiment divers et variés, des emplois dont les Français ne voulaient plus, comme tu le disais, mais aussi dans les zones rurales. Enfin, très clairement, les zones rurales en 2021, on s'en rappelle, il y avait une pénurie de pas mal d'emplois. Et c'est vrai que de s'impliquer sur une redynamisation du territoire en le liant à la politique migratoire, c'est quelque chose qui a eu un fort impact. Un fort impact parce que, bien sûr, c'est quelque chose qui a été porté en lien avec l'engagement des citoyens. Et l'engagement des citoyens qui a été très fort à chaque fois qu'il y a eu des événements très médiatisés aussi, des événements qui parfois étaient liés à des vagues migratoires liées à des raisons écologiques. Ces vagues migratoires liées à des raisons écologiques, c'est vraiment des vagues migratoires où chaque Français a pu s'identifier, et du coup, en pouvant s'identifier à ce qui se passait, a été volontaire, a voulu s'engager pour changer la donne, en tout cas apporter sa pierre à l'accueil. Et ça, bien sûr, sans parler des nombreuses œuvres culturelles qui existent depuis des dizaines d'années maintenant sur la question de l'accueil et qui sont venues enrichir, voire favoriser ces volontés d'engagement citoyen.
Et puis tout à l'heure, tu parlais, Vincent, de savoir-faire, hein, mais effectivement, toutes ces personnes qui arrivent de pays qui sont affectés depuis des décennies par le dérèglement climatique, elles viennent aussi avec des techniques qui nous permettent de mieux appréhender le dérèglement du climat, la hausse des températures, les pluies torrentielles de plus en plus fréquentes et fortes, et on est très content d'accueillir des agriculteurs et des experts en agronomie du Soudan qui arrivent avec des techniques qui nous permettent de gérer la raréfaction de l'eau. On est très content d'accueillir des personnes qui viennent de pays comme les Philippines par exemple, où eux, ça fait depuis de nombreuses décennies qu'ils doivent se préparer à ces événements climatiques de plus en plus puissants, je pense notamment aux typhons. On a du coup ce transfert de savoir-faire aussi dans l'anticipation climatique pour préparer au mieux la France qui, malheureusement, n'est pas à l'abri non plus de ces dérèglements.
Exactement. Et en plus, des savoir-faire. Je pense qu'on a su se réinventer sur les types d'accueil qu'on pouvait proposer. On parlait d'accueil chez les particuliers, d'engouement citoyen. Je pense aussi qu'on a fait beaucoup de travail ces 10 dernières années sur comment on développe les initiatives liées au logement et justement à la création de liens sociaux sur l'aspect de l'accès au logement, l'accès à l'hébergement, l'accès à un toit. On conçoit plus du tout le logement de la même manière qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a beaucoup de projets architecturaux qui permettent de bouger des cloisons au sein des appartements, au sein des maisons, pour avoir une chambre de disponible qui nous permettrait d'accueillir une personne. On réinvente la vie aux collectivités. On a certains immeubles qui conçoivent sur les différents paliers d'avoir un petit studio ou une chambre qui serait à disposition d'une personne qui n'a pas encore assez de ressources pour avoir son propre logement, du coup sur ce type de logement temporaire avec une implication des voisins à l'échelle de l'immeuble ou même d'un étage dans un immeuble. Et on réinvente aussi la ville, là où on regarde les centres d'hébergement pour migrants il y a encore 10 ans. Parfois c'était des lieux où les personnes qui étaient hébergées se retrouvaient entre elles, entre personnes de leur nationalité, où il n'y avait pas forcément de mélange avec les riverains, avec les personnes qui habitaient le quartier. Aujourd'hui, les centres d'hébergement, c'est vraiment des lieux de vie, des centres culturels où justement le lien social se crée de manière assez simple. Je pense que c'est beaucoup d'évolutions qu'il faut souligner par rapport à ce qu'on pouvait observer 9 ans plus tôt en 2021.
Ouais, donc ça nécessite hein, une anticipation, une structuration au niveau politique, au niveau gouvernemental. Le gouvernement d'ailleurs hein, qui a intégré dans sa politique d'accueil migratoire ce métier que vous aviez développé il y a 10-15 ans en arrière, celui de voilà, facilitateur de cohabitation, je sais plus comment tu l'appelais, de gestionnaire de communauté. Et donc aujourd'hui, ces personnes-là, elles travaillent auprès des communes directement en fait.
Exactement. Alors en fait, on le voit à deux échelles. On le voit à l'échelle de l'implication de l'État, bien sûr, mais aussi les partenariats avec les communes. Les communes et l'État l'État est vraiment là pour accompagner tout ce qui va relever de l'accompagnement des citoyens sur l'aspect de l'hébergement. En face de ça, on a le lien avec les communes qui parfois vont mobiliser des logements, parfois vont nous accompagner pour organiser des réunions d'information, mobiliser les citoyens. On a un encart dans quelques villes. Sur justement un encart dans tous les magazines de ville sur des histoires de cohabitation solidaire, pas seulement pour les personnes réfugiées, mais pour tout type de public. C'est vraiment quelque chose qui fait partie du paysage, alors que ça ne faisait pas forcément partie du paysage il y a 10 ans.
Ouais, c'est une super idée, hein, cet encart de magazine, effectivement, de donner à voir ces histoires. Bah, forcément, ça enthousiasme et ça donne envie de rejoindre cette dynamique. Toi, Vincent, c'est mon avant-dernière question. Qu'est-ce que tu fais en 2030 Glorieuse ?
En 2030 Glorieuse, je suis sur deux aspects, c'est-à-dire que je travaille beaucoup. En 2021, on était présent avec le programme J'accueille dans 4 villes. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 60 villes en France. Du coup, ça a été un développement énorme qui permet de réaliser des milliers d'accueils par an sur le territoire français. C'est quelque chose dont beaucoup de pays nous demandent l'expertise. Du coup, il y a pas mal de conseils, de voyages justement pour justement travailler avec d'autres pays, avec d'autres municipalités, d'autres associations à la mise en place en prenant en compte les contextes climatiques, politiques, à l'échelle des départements, des communes, voilà ces programmes d'accueil. À côté de ça, si je ne suis pas là en 2030 Glorieuse, c'est parce que je me serais rapproché un petit peu plus du terrain. C'est ce qui m'anime beaucoup de pouvoir faire la différence et de pouvoir voir mon impact au jour le jour. Du coup, à la fois œuvrer au développement de ce réseau citoyen et le faire rayonner au niveau international, et à côté de ça j'aurai certainement des activités beaucoup plus locales dans des engagements de quartier ou des engagements à l'échelle de ma ville.
Ça donne vraiment envie. En tout cas, je te remercie sincèrement, Vincent, pour cet exercice qu'on vient de faire ensemble, parce que je le voyais et je t'avoue que je m'y sentais quand même vachement plus apaisé dans ces 2030 glorieuses où la société enfin aurait compris tout l'intérêt qu'il y a à se remettre au service du vivant dans sa globalité et donc forcément des autres êtres humains qui sont parfois juste de l'autre côté d'une frontière qui est en fait tout à fait fictive. Ça me glace le sang, malheureusement, si on revient en 2021, à quel point on a... Je ne sais même pas comment le dire. Je sais même pas comment le dire. À quel point on s'est laissé happer par une vision technique, technocratique, arithmétique et en plus aussi très, très, très politique, hein, qui nous permet de jouer avec les peurs, puisque comme on l'a dit, hein, ce dont on n'a pas connaissance, ça peut nous faire peur et malheureusement, ça peut soulever les foules. Pas pour des raisons, moi en tout cas, qui m'animent. Là, on revient en 2021. Je suis désolé pour ce retour un peu brutal, mais je parle vraiment avec le cœur. Et du coup, j'ai vraiment, 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 vraiment envie que cette société des 2030 glorieuses, plus solidaire, plus humaine, elle émerge. Qu'est-ce que tu suggères aux personnes qui nous ont écoutés pour qu'elles puissent y travailler à cette société dès aujourd'hui? Quelle action très concrète on peut faire pour la faire advenir, cette société du vivant?
Ouais, bah déjà, je pense qu'il faut nuancer ce constat qui est très dur en disant qu'il y a plein de choses qui existent, plein de choses qui se passent, plein de manières de s'engager, que cette peur dont on pouvait parler, c'est quelque chose contre quoi on peut très rapidement lutter par la rencontre. Et en fait, quand on parle de faire des rencontres, c'est quelque chose de très simple parce que des rencontres, on en fait tous les jours. Et si les personnes souhaitent s'engager, si les personnes souhaitent s'engager sur l'accueil, la question de l'accueil chez les particuliers, eh bien, elles peuvent nous contacter déjà peuvent nous contacter sur notre site web j'accueille.fr, nous demander, nous proposer ce qu'elles souhaitent faire, à quel point elles souhaitent s'engager sur quel domaine très spécifique, et puis nous on pourra les orienter selon le type d'action qu'elles souhaitent mettre en place ou les accompagner bien sûr si elles souhaitent accueillir leur porte, parce que c'est bien sûr le cœur de notre métier.
J'ai vraiment aimé ton idée de la page dans chaque magazine de commune pour présenter ces rencontres et ces parcours qui sont forcément à chaque fois très touchants. Est-ce que en 2021, tu peux nous recommander comme ça un ou deux contenus, que ce soit un livre, des vidéos, un documentaire, qui nous donnerait à voir cette beauté dont tu parlais quand tu disais qu'il fallait nuancer la perception qu'on a de ces sujets en 2021?
Je pense que l'un des premiers livres que je peux vous recommander, c'est le livre « Mohamed, ma mère et moi » de Benoît Cohen, du coup, qui a été édité par Flammarion, qui est sorti en 2018, et qui raconte l'histoire d'un accueil qu'on a eu la chance d'accompagner. Du coup, Benoît est le fils de Marie-France, et en fait, Marie-France a accueilli Mohamed, qu'on appelle Med, et elle l'a accueilli pendant près de 2 ans. Et du coup, ce livre raconte l'histoire de leur rencontre, l'histoire de leur cohabitation. Il y a un autre livre un petit peu sur le même format, c'est-à-dire un autre roman sur une histoire de cohabitation qui s'appelle Le prince à la petite tasse d'Émilie de Turckheim. Du coup, je vous invite à lire ces romans qui sont très faciles d'accès et qui permettent de se rendre compte de ce qu'est la réalité d'une cohabitation. Et puis, si vous souhaitez vous lancer plus sur les initiatives d'accueil qui existent, peut-être 2 essais, les carnets de solidarité de Julia Montfort qui est partie à la rencontre de la France qui accueille, et un autre livre qui a été écrit par Jean-François Corti qui s'appelle tout simplement La France qui accueille, et du coup que je vous recommande.
Merci Vincent.
Merci Julien.
Ça y est, cet épisode avec Vincent Berne est terminé. Ça fait longtemps hein, que j'ai envie de donner la parole aux équipes de Singa France. Je vous avoue que je ne savais pas encore tout à fait comment le faire. J'ai mis du temps à réussir à trouver le bon angle, mais je trouve que vraiment, là, le travail de Vincent en tant que directeur du programme J'accueille et même la présentation du métier de facilitateur de cohabitation, je continue avec ce terme, mais j'aime bien ça. C'est vraiment quelque chose de passionnant et qui donne à voir comment les 2030 glorieuses, elles pourraient aussi avoir cette couleur solide qui me semble absolument primordial, puisque l'écologie ne va pas sans le social, surtout avec les dérèglements climatiques qui vont accélérer les flux migratoires. Ça, on doit absolument le prendre en compte et on ne pourra pas faire sans. Mais je pense que du coup, c'est aussi le signe de nouvelles richesses. Et je crois que Vincent nous a donné pas mal d'exemples qui montrent qu'effectivement, Et il y aura d'autres croissances en 2030 glorieuses. On les mesurera comme on voudra, mais elles viendront en partie de ces personnes qu'on accueillera. Je ne vais pas être plus long, mais vraiment, je vous remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Cet épisode, il me tenait à cœur et je suis vraiment content qu'il puisse faire partie de toute la sélection des épisodes de 2030 glorieuses. Et forcément, je vous donne rendez-vous à dans 2 semaines pour une nouvelle aventure. Allez, salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !